يا كلاس.
Espace 2.
Il y a bientôt 40 ans, mourait Martin Luther King, pasteur noir et apôtre des droits civils dans le sud des États-Unis. Mais 40 ans plus tard, comment le sud des États-Unis se porte-t-il? Comment la situation des Noirs a-t-elle évolué? Fabien Nürnberger s'est rendu cet été en Alabama et nous propose un tour d'horizon de la question. Bonjour à vous et bienvenue dans cette série à vue d'esprit qui est réalisée cette semaine par Françoise Yenny.
À vue d'esprit. Catherine Erard.
Et c'est de prison et de peine de mort qu'il sera question avec vous, Fabien Nürnberger, aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors Fabien, je le rappelle, vous vous êtes rendu en Alabama pour saisir les questions raciales actuelles aux États-Unis. Et là, alors on empoigne le microscope pour examiner le système judiciaire américain.
Oui, pour disséquer ce système, et en particulier celui de l'Alabama, parce que la justice est un domaine où ces différences raciales sont les plus criantes. Mmh. En très résumé, vous allez le voir, la justice est faite par des Blancs et appliquée, notamment sous sa forme la plus dure, à savoir la peine de mort, à des Noirs et à des Hispaniques. Alors, l'interview que je vous propose aujourd'hui, c'est celui de Brian Stevenson, qui est directeur de Equal Justice Initiative Alabama, qui est une ONG qui assiste des condamnés à mort, qui fait aussi du lobbying pour rendre plus humain le système judiciaire américain. Et je lui ai d'abord demandé comment ce système judiciaire américain en était arrivé là.
Je crois qu'il faut avoir en mémoire le fait que quatre institutions ont dominé l'expérience des Afro-Américains aux États-Unis. La première, c'est quand les Noirs étaient esclaves. C'était brutal, horrible. Or, il n'y a jamais vraiment eu un effort pour réconcilier les politiques actuelles avec cette expérience de l'esclavage. Cette ère de l'esclavage a été suivie par une ère de terrorisme qui a suivi la fin de la guerre civile. Lors de cette ère de terrorisme, les Noirs ont été intimidés par la violence raciale. On a brûlé des croix, il y a eu des autodafés, des lynchages. Les forces de l'ordre et les organisations locales blanches se sont efforcées d'assurer la subordination des Noirs par la violence. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Afro-Américains aujourd'hui encore n'aiment pas entendre les politiciens américains ou n'importe qui dans le monde dire que les citoyens des États-Unis font face aujourd'hui au terrorisme pour la première fois. C'est parce qu'ils ont fait, eux, l'expérience d'une violence raciste incontrôlée durant un siècle. Quand cela s'est terminé, et les lynchages n'ont pris fin que dans les années 40, la troisième institution qui s'est mise en place a été une ère de l'apartheid. Nous avions ici une ségrégation et des lois qui exigeaient que les Noirs soient subordonnés aux Blancs dans les systèmes sociaux et politiques. En tant que Noir, vous ne pouviez pas épouser une personne blanche, vous ne pouviez pas aller dans une école blanche, vous ne pouviez pas boire au même robinet, vous ne pouviez pas aller dans les toilettes pour les Blancs. Quand ce système d'apartheid a été démantelé par Martin Luther King et les activistes des droits civils dans les années 60, cette troisième institution s'est terminée. Et c'est alors, je crois, qu'une nouvelle institution a pris place avec le même type de relation avec les Afro-Américains que les trois précédentes. Une quatrième institution qui repose sur les incarcérations massives et l'utilisation de prisons et de pénitenciers comme dépôts pour un nombre croissant de personnes de couleur. Aux États-Unis aujourd'hui, si vous considérez la population masculine noire des 18-30 ans, une personne sur trois est actuellement en prison ou libérée sur parole. De manière générale, le nombre de personnes en prison augmente. En 1972, il y avait 200 000 personnes en prison. Aujourd'hui, on en est à 2,3 millions. Proportionnellement à sa population, les États-Unis incarcèrent plus que n'importe quel autre pays dans le monde. Or, l'usage de ces incarcérations massives a des effets dévastateurs sur les communautés de couleur. Dans un État comme l'Alabama, vous perdez définitivement l'usage du droit de vote si vous êtes un condamné. Si bien qu'aujourd'hui, 31% des hommes noirs ont perdu ce droit de vote. Et il y a d'autres États dans lesquels c'est aussi le cas.
The death penalty is in many ways the crown jewel of the American carceral system.
La peine de mort est de bien des manières le joyau du système carcéral américain. C'est la partie du système judiciaire qui est le plus directement reliée aux trois ères précédentes, celle de l'apartheid, celle du terrorisme et celle de l'esclavage. Parce que la peine de mort, c'est une expression visible du gouvernement local. On exécute les gens de manière publique. C'est d'ailleurs pour cela que nous nous concentrons sur la peine de mort. Depuis que l'Alabama est devenu un État, 84% des personnes exécutées ont été des Noirs. Or, il faut savoir que 80% des personnes actuellement dans le couloir de la mort le sont pour des crimes dont les victimes sont blanches, même si les victimes blanches ne représentent qu'un tiers des victimes. En résumé, la plus grande partie des victimes sont noires, mais la plus grande partie des personnes dans le couloir de la mort le sont pour des crimes dont les victimes sont blanches. Le système judiciaire porte lui-même d'ailleurs des traces visibles des trois précédentes institutions. Il y a 9 juges à la Cour suprême d'Alabama, il y en a 9 à la Cour d'appel criminelle, il y en a 5 pour la Cour d'appel civile. Ils sont tous blancs, alors même qu'il y a 21% de noirs en Alabama. À l'inverse, 60% des personnes en prison sont noires. Donc ce système racialisé est encore très apparent. Il n'y a qu'un seul procureur noir en Alabama. District attorney or
prosecutor in the state of Alabama. Et c'est aussi le cas dans d'autres États du sud des États-Unis?
Oui, c'est le cas dans d'autres États du sud. Un État comme la Floride a la même interdiction de droit de vote en cas de condamnation. En matière de peine de mort, dans tous ces États, on constate un usage disproportionné face aux gens de couleur. Et il y a aussi ce biais lié à la couleur de la victime. C'est assez commun parmi les États de l'ancienne Confédération, hein, Mississippi, Alabama, Géorgie, Louisiane, Floride, Caroline du Nord et du Sud. Ce sont aussi les États dans lesquels la peine de mort est la plus active. Nous avons environ 3500 personnes dans le couloir de la mort aux États-Unis, mais 85% des exécutions ont lieu dans les États situés entre le Texas et la Virginie. Et donc, c'est un phénomène largement du Sud, si on regarde comment il est appliqué la peine de mort.
Mais ici, comment est-ce que les gens s'expliquent à eux-mêmes ce phénomène, à savoir que les Noirs sont plus facilement condamnés à la peine de mort que les Blancs?
C'est drôle et frustrant, mais ils ne sont pas tenus de donner d'explication. Il y a un arrêt célèbre rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1987, qui s'appelle McCleskey versus Kemp, dans lequel la Cour suprême retient que ce genre de disparité est inévitable. Pour eux, la discrimination qui conduit à cette situation n'est pas suffisamment significative pour que ça rende la peine de mort inconstitutionnelle. Et c'est cet arrêt qui permet à ceux qui soutiennent cette politique de la justifier. On a des résultats différents pour les Noirs et les Blancs, certes, mais on n'a pas à les expliquer. Vous entendez parfois des gens dire que c'est parce que les crimes qui impliquent des victimes blanches sont plus graves que ceux qui impliquent des victimes noires. Mais vous savez, je ne connais aucun parent de victime noire qui dise qu'on peut qualifier le meurtre de celui qu'il aime de pas grave. Parfois, on entend aussi, ce n'est pas une question de race, ça dépend seulement de l'argent que la personne peut investir dans sa défense lors du procès. Et je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Le système criminel américain est très sensible aux paramètres richesse. Nous disons ici que les gens sont mieux traités s'ils sont riches et coupables que s'ils sont pauvres et innocents. Mais cela ne justifie pas les différences qu'on constate entre noirs et blancs. Et ce qui est très frustrant, c'est qu'on ne peut pas exiger d'explication par rapport aux disparités qu'on constate en fonction de la race.
Est-ce qu'il y a également des traditions spéciales américaines en matière de justice qui expliquent pourquoi de telles situations se produisent?
Je crois qu'il y a 3 facteurs qui expliquent ce qu'on observe. Le premier est qu'on juge quelqu'un sur la base de la décision d'un jury, et vous devez commencer par sélectionner les 12 personnes qui seront membres du jury. Or, il y a là un biais racial gigantesque dans la sélection des jurés. Dans 25 cas, nous sommes parvenus à renverser la sentence en prouvant qu'il y avait eu un biais racial illégal dans la sélection du jury parce que le procureur avait exclu toutes les personnes de couleur.
Mais ça, il faut que vous nous l'expliquiez. Comment est-ce que c'est possible qu'on sélectionne un jury dans un sens ou dans un autre ?
Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez 60 personnes qui peuvent devenir jurés, mais que vous devez en sélectionner 12. La première question que pose le juge au juré potentiel, c'est « L'un d'entre vous est-il opposé à la peine de mort ?» Et si vous êtes opposé à la peine de mort, vous êtes automatiquement exclu du jury.
Pourquoi ?
Parce qu'une cour a jugé qu'une personne opposée à la peine de mort ne serait pas capable d'être juste au moment d'évaluer si cette peine de mort doit être appliquée. Nous avons contesté cette décision, mais c'est la décision de la cour. Et parce que la peine de mort n'est pas aussi populaire dans les communautés de gens de couleur qu'elle l'est parmi les blancs, vous perdez un tas de gens à cause de cela. Au-delà de ça, le procureur et l'avocat de la défense reçoivent chacun un certain nombre de possibilités de biffer des personnes sur la liste des jurés pour parvenir au nombre de 12. Et ce qui se passe en général dans beaucoup de cas, c'est que le procureur utilise ses coups de crayon pour exclure toutes les personnes de couleur. Et vu que c'est illégal, il s'arrange pour fournir une explication qui n'est pas liée à la race, une raison qui ne donne pas l'impression qu'il sélectionne sur la race. Les juges ont alors autorité pour confirmer ces raisons, même si les procureurs sortent parfois des choses stupides. J'ai éliminé ce juré parce qu'il ressemblait à la victime. Ou cette femme vit dans la même partie de la ville que l'accusé. Ou encore d'autres raisons qui sont des prétextes, mais qui ont été confirmées par la cour. Cela signifie que dans certains comtés, majoritairement noirs, jamais aucun noir n'a été sélectionné comme juré pour un procès avec la peine capitale à la clé. C'est là un facteur qui contribue à générer des résultats racisés.
Factor is the absence of any people of color in decision-making roles. Not only are they not present on the juries.
Le second facteur, c'est l'absence de personnes de couleur parmi les décideurs. Ils ne sont pas seulement absents des jurys, mais il n'y a pas beaucoup de juges noirs. Virtuellement pas de procureurs noirs, peu d'avocats noirs. Cela signifie qu'il n'y a pas d'exigence de fiabilité face au système, aucune pression pour être juste et attentif aux besoins des personnes de couleur, particulièrement lorsqu'ils sont accusés de crimes violents. Quant au troisième facteur, c'est le cadre politique dans lequel le système judiciaire et les peines de mort sont discutées. Vous savez, à l'époque, le mot que vous utilisiez pour définir la hiérarchie sociale entre blancs et noirs était le mot « esclave » pendant l'esclavage. Et ensuite, il y a eu des termes comme « coloré », tous ces sobriquets racistes qui définissaient les gens et que personne n'a osé remettre en cause jusqu'au milieu du XXe siècle. Maintenant, le mot-clé, c'est le mot « criminel ». Et on utilise ce mot pour enlever aux gens leur pouvoir.
Now I think it's criminal, and we use that word to basically disempower people.
Et le résultat, c'est que les politiciens mènent campagne de manière agressive en disant « je serai très dur ». Et ils prêchent la peur et la colère pour créer du pouvoir politique. C'est devenu une formule à succès pour vous assurer une marge de manœuvre du niveau local au niveau national. Et dans cet usage politisé du crime, c'est beaucoup plus facile de courir après les gens qui sont différents. Minorités politiques, minorités raciales, immigrants, gens ayant moins de pouvoir, ils deviennent les cibles d'une stratégie sécuritaire qui se réclame de sentences dures. Et la peine de mort fait partie de cela.
Dans le système judiciaire de l'Alabama, qui est élu ?
Presque tous les postes décisionnels sont des postes électifs, les postes de juges étant évidemment les plus sensibles. Nous sommes un des États qui connaît l'élection des juges par le biais des partis. Ça veut dire que vous courez pour les républicains ou les démocrates. Les juges de l'État doivent donc faire campagne, et certains vont faire campagne sur le thème d'un large soutien à la peine de mort. Une manière d'être élu est de marteler que vous allez vous assurer que ces gens seront exécutés. Dans ce type d'environnement, ça devient difficile de faire en sorte que ces cours examinent les cas de manière critique. Nous avons une loi unique en Alabama qui permet aux juges élus de passer par-dessus le verdict du jury. Même si le jury revient avec un verdict de prison à perpétuité, le juge est autorisé à poser un autre verdict que celui du jury et d'imposer la peine de mort. 23% des condamnés actuellement dans le couloir de la mort ont reçu un verdict de perpétuité du jury, mais ont vu leur peine alourdie en peine de mort par ces juges élus. Donc vous voyez ainsi l'interférence entre politique et peine de mort.
De quelle manière est-ce que vous remettez en cause ce système ?
Nous fournissons des prestations d'avocats à des clients dans le couloir de la mort, Nous représentons environ une centaine de personnes dans les couloirs de la mort, dans différents types d'appels. Nous sommes également actifs dans d'autres types de procédures juridiques. Nous mettons en cause certains aspects du système. Maintenant, nous travaillons à mettre en cause des peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération pour des condamnés qui n'ont pas commis de violence. C'est une manière de travailler sur le système judiciaire très punitif en vigueur ici.
Est-ce que vous pourriez expliquer plus précisément ce que signifie perpétuité sans possibilité de libération ?
Aux États-Unis, nous avons une loi qui s'inspire d'une règle du baseball qui vous élimine à la troisième faute. Nos cours ont la possibilité de condamner quelqu'un à mourir en prison, donc de le mettre en prison pour le restant de ses jours, avec jamais aucune chance d'être relâché. Et beaucoup de gens reçoivent ce type de sentence pour des crimes très mineurs. Par exemple, nous avons un client qui a volé une bicyclette et qui a reçu la prison à perpétuité. Ou simplement la possession de drogue avec deux condamnations précédentes de possession de drogue. Si vous écrivez des chèques sans provision, la cour peut vous dire « le premier vous sera compté comme une première condamnation, le deuxième chèque est une deuxième condamnation et le troisième chèque vous condamne déjà à perpétuité ». Et d'un unique incident, vous en ressortez avec cette peine perpétuelle. Et donc c'est un système très dur qui a débouché sur des sentences qui, à nos yeux, sont indignes. Nous nous sommes attaqués à cela avec une nouvelle campagne dans laquelle nous représentons de très jeunes gens qui ont été condamnés à cette prison à vie, donc à mourir en prison. Il y a environ une centaine de personnes aux États-Unis qui ont été condamnées à mourir en prison pour des crimes qu'ils avaient commis alors qu'ils avaient 13 ou 14 ans.
Et c'est possible ?
Oui, c'est possible. Nous avons plusieurs clients qui ont 13 ou 14 ans et qui sont actuellement dans des prisons pour adultes où ils vont rester jusqu'à leur mort. C'est contre les lois internationales. Celles-ci interdisent ce type de sentence pour quelqu'un d'aussi jeune, mais les États-Unis n'ont pas signé ces traités et les protocoles qui interdisent ce type de sentence.
Vu d'Europe, on a eu l'impression que la Cour suprême avait restreint les possibilités d'application de la peine de mort aux États-Unis. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Oui, la Cour suprême a essentiellement aboli la peine de mort pour les mineurs. Les mineurs aux États-Unis aujourd'hui ne peuvent plus être condamnés à mort par exécution, mais ils peuvent être condamnés à mort par emprisonnement. Vous pouvez toujours prendre un jeune de 13 ou 14 ans et dire « vous, vous allez en prison et vous n'en sortirez jamais, vous mourrez en prison ». La Cour a également aboli la peine de mort pour les gens qui ont un retard mental. Pas pour d'autres maladies mentales. Les schizophrènes, les gens avec des troubles bipolaires ou avec d'autres maladies mentales sérieuses peuvent toujours être exécutés. Mais des gens avec un retard mental ont été protégés. Mais le problème est que pas beaucoup de gens en bénéficient parce que c'est l'État qui définit qui a un retard mental et qui n'en a pas. Et des gens qui auparavant étaient désignés comme retardés mentaux sont aujourd'hui désignés comme pas si retardés que ça et méritent de ne pas être exécutés. Donc, cette décision s'est révélée moins utile que beaucoup de gens le pensaient.
And so that decision has proved less helpful than a lot of people thought it was going to be.
Donc si on vous suit bien, aux États-Unis, il y a un nombre croissant de personnes qui ont été condamnées à cette peine de prison à vie sans possibilité de libération.
Absolument. Rien que pour les mineurs, donc en dessous de 18 ans, ça représente 3000 personnes, donc c'est un phénomène vraiment en croissance.
Et les conditions d'emprisonnement, comment sont-elles ? C'est comme dans le couloir de la mort ?
D'une certaine manière, les conditions de vie en prison sont moins bonnes que celles dans le couloir de la mort. Dans le couloir de la mort, vous avez un espace privé, c'est vraiment très difficile en beaucoup d'états, c'est très dur. Mais pour la majorité de la population carcérale, les prisons sont très peuplées. Parce que nous sommes passés de 200 000 personnes en prison en 1972 à 2,3 millions aujourd'hui. Il n'y a donc pas assez de place et les prisons sont bondées. Il y a beaucoup de violence. Il n'y a pas de programme pour donner de bons soins et des traitements. Donc ça dépend de la prison et ça dépend aussi du type de prison, mais il existe des prisons affreuses aux États-Unis.
Qu'est-ce
Qu'est-ce que les gens pensent de la peine de mort ici en Alabama? Quelle est l'opinion commune?
Je crois que nous avons eu quelques succès pour persuader les gens que la peine de mort est problématique, en raison, pour commencer, du nombre de personnes innocentes qui ont été identifiées. Dans les dernières années, nous avons identifié 128 personnes dans le couloir de la mort qui étaient innocentes. Et dans ce même temps, il y a eu 1100 exécutions. Ça veut dire que sur 8 personnes exécutées, une d'entre elles était innocente. Et c'est un taux d'erreur particulièrement choquant, et je crois que c'est ce qui persuade un certain nombre de personnes. Malheureusement, la plupart des gens ne voient pas les condamnés à mort comme des gens qui viennent d'une communauté qui compte. Ils sont pauvres, ils sont de couleur, ils sont marginalisés. Et le fait qu'ils ne soient pas toujours coupables et qu'ils soient traités de manière incorrecte ne crée pas les mêmes réactions que s'il s'agissait de personnes influentes, puissantes ou célèbres. Donc, une des difficultés dans le fait de convaincre les gens de changer d'opinion au sujet de la peine de mort a été de leur montrer les conditions et les circonstances et les souffrances de ces gens dans leur communauté ou leur famille. C'est pourquoi il est important de raconter l'histoire des gens qui ont été condamnés à tort et qui ont été victimes de l'indifférence et du manque de soins dans l'imposition de la sentence.
J'ai eu l'impression, mais peut-être que c'est un préjugé, qu'en Europe, on fait plus attention aux circonstances atténuantes qu'aux États-Unis.
Je crois que cette analyse est correcte. Je crois que notre système de cour n'est pas sensible au contexte plus large et aux raisons du crime. Vous savez, les peines minimales prévues par la loi constituent une bonne partie des peines prononcées lors des jugements aux États-Unis. Donc, les juges ne regardent que le crime que vous avez commis et rien d'autre, ce qui, à mon sens, rend le verdict moins juste. Pour revenir à ces enfants de 13 ou 14 ans qui ont été condamnés à mourir en prison, vous savez, la plupart d'entre eux ont survécu à d'horribles violences, à des abus, à des mauvais traitements, et l'État n'est jamais intervenu quand il aurait dû intervenir pour sauver ces enfants d'abus physiques ou sexuels ou d'autres soins horribles d'abandon. Mais quand ces enfants font quelque chose de mal ou dérapent, l'État se précipite et les condamne à mourir en prison. Ce type de déconnexion et d'évaluation irresponsable de la capacité reflète une indifférence à l'examen des circonstances atténuantes et toute l'histoire de ces personnes.
Est-ce que vous avez espoir que ce système puisse changer? Et si oui, à quelle vitesse?
Nous avons eu quelques succès pour ce qui concerne notre bureau. On a pu faire sortir 75 personnes du couloir de la mort dans les 15 dernières années. Et c'est un résultat encourageant. Nous sommes impliqués pour les personnes qui sont en prison à perpétuité pour des crimes non violents. Vous savez, Martin Luther King avait l'habitude de dire que l'arc de l'univers moral est vaste, mais qu'il s'incurve vers la justice non seulement pour quelques privilégiés, mais pour tous. Et je crois que c'est un point central de la dynamique d'espoir que nous avons. En même temps, je crois que beaucoup de gens ne savent juste pas et ne comprennent pas que notre système va si mal, à quel point il fonctionne de manière injuste. Une part de notre effort est d'engager les gens dans la discussion pour faire plus d'éducation. Nous sommes beaucoup dans les cours, mais nous réalisons que nous avons beaucoup besoin d'être hors des cours pour parler avec les gens et leur présenter certains de ces cas et certains de ces problèmes, de manière à créer un environnement nécessaire à une réforme politique.
Aujourd'hui, aux États-Unis, est-ce que les églises sont une aide ou plutôt un problème face à cette situation?
Oui, c'est compliqué. Je crois que les églises conventionnelles du Sud n'ont pas été une aide. Il y a un mouvement religieux de droite qui a été favorable à ces politiques que nous jugeons injustes et critiquables.
In Alabama in 2004, we had a referendum.
En Alabama, en 2004, il y a eu un référendum pour extirper le langage raciste de la Constitution. Parce que le texte actuel interdit toujours, théoriquement, aux enfants blancs et noirs d'aller dans la même école. C'est évidemment inapplicable, mais ça figure toujours dans le texte. Et certaines personnes ont pensé que les entreprises européennes ne viendraient pas avec grand enthousiasme en Alabama si elles voient dans la Constitution de tels textes. Donc il y a eu le projet de sortir ça de la Constitution. Il y a donc eu un référendum au niveau de l'État. Malheureusement, 51% des votants ont choisi de maintenir ce langage dans cette constitution. Or, l'effort pour maintenir ce langage a largement été emmené par cette coalition chrétienne d'Alabama. C'est ce que je veux dire en évoquant certaines de ces forces qui contribuent à une vision du monde, une pensée très raciste, anti-pauvre, réactionnaire. D'un autre côté, il y a des églises progressistes. Des églises noires ont toujours fait entendre leur voix, toujours très actives à empoigner les problèmes, et aussi des églises catholiques dans certains coins. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que les églises sur ce thème aient été d'un grand secours dans le Sud profond.
But I don't think you could say that the church has been a strong advocate for reform on all of these issues in the Deep South.
Brian Stevenson, directeur de Equal Justice Initiative Alabama, une ONG qui assiste des condamnés à mort et qui fait du lobbying pour rendre plus humain le système judiciaire américain. Alors Fabien Nunberger, au terme de cette semaine, on se demande, 40 ans après Martin Luther King, les Noirs ont acquis des droits, mais est-ce que leur situation concrète a vraiment changé? Est-ce que ce n'est pas toujours des citoyens quand même de seconde zone?
Alors je dirais, ce qui frappe, après avoir entendu les différents intervenants, c'est qu'il y a plus de mobilité individuelle. Donc des gens qui souhaiteraient qui auraient la possibilité matérielle ou culturelle de monter dans la société, de faire leur place, ils ont la possibilité. Ça, c'est clairement possible. Il n'y a plus de plafond de verre pour les individus. Par contre, au niveau collectif, alors ça, ça frappe, l'accès aux moyens de formation individuelle, l'accès aux moyens matériels aussi pour monter son projet selon le rêve américain, alors là, clairement, ça fait déficit. Effectivement, dans le Sud, des gens qui auraient fait une école public, donc souvent dans des conditions difficiles, voilà, qui n'aurait pas un nom ou une renommée ou un métier dont le père n'exercera un métier particulier qui lui donnerait la possibilité d'entrer quelque part dans la société américaine, qui réussit, bah alors là, effectivement, ce sera difficile pour lui. Donc je dirais que mobilité individuelle, oui, mais globalement, il y a quand même une fracture très très nette qui demeure entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis.
Et pour une grande majorité des Noirs, cette montée sociale n'est pas possible.
Très concrètement.
Clairement. Merci Fabien Nunberger, merci également à Françoise Yanni qui signait la réalisation de cette semaine à vue d'esprit. Merci également à Jean-Christophe Emery pour la traduction. Si vous souhaitez réagir à ces émissions, notre répondeur vous attend au 021 318 60 70. 021 318 60 70. Je vous rappelle également notre site internet religion.rsr.ch où vous pouvez réécouter toutes les émissions de cette semaine. La semaine prochaine, après les États-Unis, eh bien, on revient en Suisse, chez nous, puisqu'on s'intéressera à la cathédrale de Lausanne qui vient d'être restaurée. Une série d'émissions que nous propose Michel Kocher. Rendez-vous donc dès lundi à 16h30. Très bon week-end à vous tous. D'ici quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Dernier Entendu, qui est consacré à Ernest Ansermet.
Dimanche 7 octobre, à l'occasion des 50 ans du satellite Spoutnik, lancé le 4 octobre 1957 par l'URSS, Sonar, l'émission documentaire d'Espace 2, organise une première nuit de l'écoute. De l'écoute de l'espace à l'écoute des autres, cette émission spéciale aura lieu en direct et en public au studio 15 de la radio suisse romande à Lausanne, de 20h à minuit. L'entrée est libre, mais la réservation obligatoire au 0840 222 123 ou par mail à espace2@rsr.ch. La première nuit de l'écoute, dimanche 7 octobre dès 20h sur Espace 2.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.